Et le message de ce matin, c'était toi, homme de Dieu. Donc, 1 Timothée 6, 11. 1 Timothée 6, 11. L'apôtre Paul écrit à Timothée, et au-delà de Timothée, c'est nous, hein, on va s'approprier ce que le Seigneur a à nous dire, ou veut nous dire. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Un homme de Dieu, c'est une nouveauté dans nos vies. Nous étions hommes de ce monde. Et Dieu veut faire de nous non seulement une nouvelle créature, mais il veut faire de nous un homme de Dieu. Et on peut l'extrapoler aussi ou l'appliquer plutôt à une femme de Dieu. C'est un but que Dieu poursuit et qui est un but noble, mais qui demande du travail, parce que tous les êtres humains ont été entachés par le péché. Et tous ces points que Paul souligne, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, tout cela a complètement été abîmé en nous à cause du péché. Seulement, le Seigneur veut faire une œuvre de nouvelle naissance et de qualification particulière dans ce domaine. Là où apparaît le fait que la justice de Dieu a été entachée par le péché, c'est que Adam et Ève ont été capables de se rappeler ce que Dieu disait avec exactitude, mais de ne pas se discipliner pour le mettre en pratique. Soit recherche la justice, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu et la volonté de mettre en pratique ce que Dieu dit. Ce sera là les éléments de justice divine dans notre vie. Savoir ce que Dieu dit et mettre en pratique et faire ce que Dieu dit. Et on a besoin de son aide pour en arriver là. Parce que sinon, nous pourrions être pris en défaut à ce niveau. Au chapitre suivant de la Genèse, c'est pareil. Ce qui revient à Dieu est entaché déjà. Une offrande est apportée à Dieu. Abel va la faire d'une manière, Caïn d'une autre. Et on voit que l'offrande de Caïn est entachée, elle n'est pas juste au regard de Dieu, à la différence de celle d'Abel, parce qu'il y a une notion à cause du péché de sacrifice. Ce qui veut dire que dans notre vie, tout ce que nous allons apporter à Dieu, mettre à son service, il ne peut pas être autrement que cela nous coûte. Cela va nous coûter, parce que cela fait partie du sacrifice, de l'offrande que l'on apporte à Dieu. Dans le livre des Chroniques, il est dit, je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Donc servir Dieu va nous coûter, va vous coûter. Ce matin, le Seigneur a parlé à quelqu'un concernant l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est un prix à payer, c'est un sacrifice. Vous sacrifiez vos projets, votre vie, vos perspectives, non pas pour le plaisir de les sacrifier, c'est que avec Dieu, c'est tout ou rien. Si vous voulez le servir, ce sera pour tout ce qu'il a prévu de fait. Il n'y aura plus rien de ce que vous aviez prévu. Voilà. Mais, quand on sait que ce qu'il a prévu pour nous est ce qu'il y a de meilleur, nous prenons le risque d'être bénis. Mais il faut quand même faire le choix et prendre la décision. Sans quoi, nous pourrions être dans la catégorie de ceux qui savent ce que Dieu dit, ce que Dieu leur a dit, mais ils ne le mettent pas en pratique. Ils n'obéissent pas. Alors, recherche la justice. Recherche la piété. Cet attachement à Dieu aussi a été faussé, elle est devenue partielle, elle est devenue apparence à cause du péché. Ce peuple m'honore des lèvres, dira même le Seigneur Jésus, mais ils ne me servent pas du fond de leur cœur. Notre attachement à Dieu doit être linéaire, de l'intérieur à l'extérieur. Ce que je dis, c'est ce que je vis. Ce que je prie, c'est ce qu'il y a au plus profond de moi-même. Il n'en est pas autrement. Toi, de toute façon, tu vois, tu as un lien direct, hein, de vision et de connaissance des choses. Tu vois en direct ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne peux pas m'exprimer autrement que sur la base de ce qu'il y a dans mon cœur. La piété, elle est devenue religieuse. Voilà, et nous, il ne peut pas en être autrement. Ne soyons pas, permettez-moi juste de nous égratigner tous, mais de la même manière, elle ne peut pas être dominicale, notre piété. Elle doit être quotidienne, notre piété. Voilà. Et comme un don spirituel le rapportait, quand il va revenir, si c'est un dimanche matin, où serons-nous ? Dans la maison de Dieu, si on est ailleurs, faudra dire au Seigneur, c'est que je ne pouvais pas, pour telle et telle raison, mais pas parce que j'étais allé me promener. Et si c'est un jour de semaine, ah, alors ça va être, là il va y avoir l'éventail est large. Il y a ceux qui seront chez eux, ceux qui seront au travail, en voyage, mais dans tous les cas, un profond attachement au Seigneur, dans cette perspective de son retour, on l'attend, et on ne peut pas ne pas être soucieux des autres. Que je sois sauvé, merci Seigneur, et le plus grand nombre avec moi. De ceux de ma famille d'abord, et de ceux que tu places devant moi aussi. Alors, si le Seigneur a parlé dans ce sens-là également, c'est non seulement qu'il va le faire, mais il nous prépare. Et on sera à la hauteur. Ce n'est pas toujours évident de parler à quelqu'un que l'on rencontre comme ça. On se dit, comment vais-je engager la conversation? Mais je vous rapporte ce petit témoignage. S'il y a un besoin qui apparaît, s'il y a un plan de Dieu qui se dessine, il va vous donner les moyens d'arriver au bout. Parce qu'il ne peut pas en être autrement avec le Seigneur. C'est toujours, toujours comme ça. Donc ne vous inquiétez de rien. Et Paul le dira, exerce-toi à la piété. Voilà. Donc ça ne viendra pas tout seul. Hein. C'est à nous de temps en temps de faire des efforts. Et ça, c'est important. Certains se sont éloignés, ils ont perdu ce qui fait la force de la piété. La force de la piété, on va le lire dans 2 Timothée 3.5, c'est à mon sens l'obéissance. 2 Timothée 3.5, certains ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et quand vous lisez tout le passage, moi j'en conclus une chose, c'est que tout ce passage fait apparaître que le point fort de la piété, c'est l'obéissance à ce que Dieu dit, et rien d'autre. Et même Néhémie s'adressera à Dieu en disant, souviens-toi de mes actes de piété. Ce que je fais, c'est par rapport à toi, pas par rapport aux autres. D'ailleurs, on a bien compris dans d'autres domaines qu'il ne faut pas trop s'appuyer sur les autres, faire en fonction des autres, parce que parfois ça tient, parfois ça ne tient pas. Parfois, c'est de leur faute. Parfois, c'est parce qu'ils ne sont pas plus forts que moi non plus. Donc, du coup, gagnons du temps, comptons sur Dieu, attachons-nous seulement à lui et dépendons de lui. Le reste, ce sera bien secondaire et quand ça ne marchera pas, ça nous touchera peut-être moins durement. Recherche la foi. Voilà. À cause du péché, la foi a été malmenée. Nous avons du mal à faire confiance à Dieu. Alors, là aussi, il faut que ce soit un point sur lequel nous allons travailler dans notre propre vie. Je veux m'obliger à faire confiance à Dieu. Je veux m'obliger à lui soumettre mes projets avant de les engager. Pas après l'avoir fait, mais avant. Et dans ce cas-là, je m'oblige aussi à tenir compte de sa réponse. Et s'il ne répond pas dans le délai que je lui ai demandé, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on va être pratique. Est-ce que je m'engage quand même? Ou le fait qu'il ne réponde pas dans le délai, c'est peut-être que c'est sa réponse. Ne t'engage pas. N'y va pas. Mais ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui sera inné chez nous et que d'autres vont nous apprendre, parce que d'autres vont nous apprendre comment eux ont vécu leur foi. Et comme leur foi, elle a été comme la nôtre, il faudra être attentif quand ils étaient en haut et pas quand ils étaient en bas. Et puis, ils n'ont peut-être pas traversé les situations que je traverse. Alors, je ne trouverai pas toujours l'exemple parfait de ce qui me concerne autour de moi. Autrement dit, ma vie par la foi est individuelle et personnelle. C'est mon chemin. La foi a une source aujourd'hui qui est décalée, c'est ce que l'on voit. Et le Seigneur est venu tout remettre dans l'autre ordre, dans l'autre sens. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons d'abord par la confiance en Dieu. Et ce que nous verrons vient ensuite. La foi, c'est croire et obéir. Et nous verrons les conséquences de tout cela. Et ça doit se faire sur la base d'une crainte respectueuse. Saisie d'une crainte respectueuse, c'est écrit dans Hébreux chapitre 11. Alors il a obéi. Il a mis en action ce que Dieu lui disait. C'est Noé. Et heureusement qu'il n'a pas attendu de voir la pluie tomber. C'était trop tard pour construire l'arche. Le Seigneur nous parle de son retour. Cela fait partie de ces éléments majeurs, si ce n'est l'élément majeur, qui est devant nous, qui atteste que nous croyons sans voir. Et quand nous verrons, ce sera trop tard pour bouger, parce qu'on n'aura pas le temps de bouger. En un clin d'œil, nous partirons. Alors si nous croyons cela, c'est la même foi qui doit être appliquée à tous les autres domaines de notre vie. Seigneur, je crois ce que tu dis, et quand je t'ai demandé de me répondre, je vais attendre ta réponse. Et si ta réponse tarde, eh bien j'attends. Si ta réponse est non, j'en tiens compte. Si ta réponse est oui, c'est plus facile. Quoique, parfois ce que le Seigneur nous dit de faire est fort. Mais bon, il sera avec nous. Recherche l'amour. Ah, l'amour. On en a tous une trace d'amour, un élément, une dimension d'amour. Mais il faut qu'il devienne celui de Dieu. Le nôtre, à cause du péché, est devenu sélection. On aime plutôt les uns que les autres. Alors, toutes les raisons. Isaac aimait Ésaü plus que Jacob. L'amour de Dieu n'est pas sélection. Nous avons un amour qui est conditionnel. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Faites sauter les conditions. Parce que Dieu nous aime sans condition. Et c'est son amour. Et puis, un amour qui élève le plafond. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et ce qui est extraordinaire, c'est que par amour, Dieu donne quand on ne le mérite pas. Alors c'est là où apparaît réellement notre amour par rapport au sien, dans le sens de la comparaison. Est-ce qu'on est capable de donner, de faire, quand les autres ne nous aiment pas, quand les autres ne nous font pas de retour positif, quand ils sont encore des pécheurs, donc ça veut tout dire, et quand on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà. Amour qui est ému de compassion et qui ne se laisse pas fausser par la réalité. La réalité, elle est dure. Le Père a une réalité par rapport à son fils prodigue qui est dure. Il sait que son fils a pris tout le travail de sa vie. Il lui revenait, mais quand même, c'est le travail de sa vie. Pour partir, et il vit dans la débauche, et il sait très bien ce que son fils est en train de devenir, mais il reste ému de compassion. Il reste celui qui l'aime et qui l'attend. Et ça aussi, nous devons atteindre ce niveau d'amour-là, un amour qui est capable de résister aux blessures les plus dures. Vous aimez quelqu'un, il ne vous le rend pas. Même pendant un temps, il vous blesse. Et volontairement, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Vous avez beau le dire même avec la plus grande des douceurs, ça fait mal quand c'est votre fils qui vous le dit. Comment vous réagissez à ce niveau-là? Dieu est amour. On le dit, c'est l'attribut de Dieu. Et moi? Est-ce que cet amour est mon attribut? Lui, il aime. Remarquez, quand vous aimez, vous prenez le risque d'être un peu critiqué. Parce que l'amour croit tout, supporte tout. L'amour est patient. Alors, quand vous êtes devant quelqu'un qui croit tout, vous dites, il est un peu niais quand même, hein. Il est un peu naïf, hein. Et il va se faire manger, mais il n'y voit pas. Mais Dieu voit tout, et il aime quand même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand nous lui avons dit, on ne va pas parler des autres, quand nous lui avons dit quelque chose qui était, il l'a cru. Alors, j'oserais dire, est-ce qu'on pourrait se laisser à penser que Dieu est naïf? Non. Mais il s'oblige à croire ce qu'on lui dit. partir de là, la responsabilité de celui qui n'est pas droit est totalement engagée. Il ne faut pas critiquer celui qui croit. Il faut plutôt critiquer celui qui est hypocrite et qui trompe. Vous, vous avez une qualité, si vous croyez ce qu'on vous dit, qui est de Dieu. Et restez comme ça. Parce que sinon, vous allez tomber dans un mode de fonctionnement impossible à vivre. Toujours suspicieux. Et c'est difficile à vivre au quotidien. Au bout d'un moment, vous ne savez plus si ce qui vous est dit, c'est vraiment ça. Parce que vous en êtes rendu au point où vous vous mettez en doute tout le monde. Vous ne croyez plus personne. Et ça risque d'avoir une conséquence dans votre communion avec Dieu. À un moment donné. Dieu nous dit, recherchez l'amour qui est le sien, et qui croit tout, et qui espère tout, et qui supporte tout. Voilà. Il est absolu, ou ce n'est pas celui de Dieu. Voilà. Et puis, nous aimons Dieu que nous ne voyons pas. Vous entendez ce que l'apôtre Jean a dit sur le même sujet? Comment alors peux-tu ne pas aimer ton frère que tu vois? Si nous aimons Dieu, nous aimons notre frère. C'est cet amour qui est de Dieu. Recherche la patience. Là, je l'ai dit plusieurs fois, mais on le sait très bien. Le manque de patience aujourd'hui est devenu un vrai problème qui peut rendre même malade quelqu'un qui n'est pas capable d'attendre, de patienter. Vous mettez dans une salle d'attente 10 personnes et toutes les 10 minutes, vous prenez une photo, comme on fait pour les fleurs qui poussent. Après, vous vous mettez en accéléré. Et vous allez voir au bout de 20 minutes, au bout de 30 minutes, au bout de 40 minutes, au bout d'une heure, l'état d'attente de chacun. Parce que vous avez dit, rendez-vous à 15 heures. Et à 16 heures, vous êtes toujours par là. Pas là, sauf que vous êtes de l'autre côté, vous prenez les photos toutes les 10 minutes. Voilà, c'est un jeu malsain, hein, parce que quand vous allez montrer les photos, vous allez voir le retour de manivelle que vous allez prendre. Eh oui, oui, oui. Mais, quelque part, c'est un exercice, hein. Peut-être un exercice dans lequel le Seigneur voudrait que nous reprenions le stylo, comme nous avons fait des exercices d'apprentissage pratique dans notre formation professionnelle, où on nous a mis, comme on dit, en situation. Voilà. Vous êtes devant un problème, vous êtes un mécanicien en formation, il y a un problème mécanique dans ce moteur. Allez, débrouillez-vous, sachant qu'aujourd'hui, on le sait, ils ont obligation de réussite. Voilà. Obligation de réussite. Obligation de réussite dans le domaine de la patience. Au bout d'une heure, alors je ne vous dis pas au bout de deux heures, mais c'est important, parce que de temps en temps, ce que nous avons demandé à Dieu demande du temps. Comment nous allons-nous gérer ce temps qui passe? Nous demandons la conversion d'un conjoint, nous demandons une orientation dans notre vie professionnelle, voire dans notre vie sentimentale, et le temps passe. Comment gérons-nous ce temps qui passe? De 10 minutes, 20 minutes, vous comprenez que c'était juste pour imager. Voilà. Si nous n'arrivons pas à gérer la patience, nous risquons de commettre des erreurs et de nous tromper. Voilà. Et n'inversons pas les choses au niveau de la patience. C'est Dieu qui gère le temps. Et pour nous, même s'il passe, il faut le laisser passer. La patience vient de la confiance en Dieu, dira Jacques. L'épreuve produit la patience, qui conduit à l'espérance, dira l'apôtre Paul, et qui se développe avec le fruit de l'esprit. Le Seigneur est bien conscient que ce n'est pas une capacité humaine qui va nous permettre, au bout d'une heure, d'être dans le même état qu'une heure avant. C'est quelque chose qui vient de lui. Mais, si vous me permettez d'inverser, parce qu'il y a quelque temps, quelqu'un m'a posé une question assez précise, je lui ai dit, je vais répondre, je dis maintenant, je vais vous retourner la question. Et concernant la patience, le Seigneur pourrait nous retourner la question et nous dire, pour ce que je t'ai demandé et ce que j'ai prévu pour toi, combien de temps ai-je dû attendre? Que tu répondes oui quand j'ai touché ton cœur pour le salut de ton âme. Combien de temps m'as-tu fait attendre? Un temps que tu ne supporterais pas toi-même. Et pourtant, tu me l'as imposé. Alors, si le Seigneur nous parle de patience, je crois qu'il sait de quoi il parle, et il est en droit de le faire. Et puis nous pourrions arriver à la patience de Job, à la patience de Moïse, avoir une renommée dans la patience. Être quelqu'un qui est renommé, non pas pour sa rapidité à la réaction, mais à sa durée dans la patience. Et puis on termine, recherche la douceur. Ça a l'air de rien, la douceur, c'est de la plus haute importance. Vous êtes devant la même personne qui réagit d'une manière dure ou qui réagit d'une manière douce. C'est la même personne. C'est la même situation. Donc le sujet n'est pas là. C'est la réaction. Dieu est un Dieu de douceur. Quelle grâce. Quand il parle à David de son péché, il le fait avec un doigté exceptionnel. Une douceur qui nous dérangerait presque devant la gravité du sujet. Le manque de douceur, ça fait mal. Rendez-vous chez le dentiste quand il... c'était pas son jour, parce qu'il a droit à être dans un jour sans, sauf qu'il ne faut pas que ce soit celui de mon rendez-vous. Pareil, la douceur relève du cœur et de l'esprit. Ça, c'est quelque chose d'important. Ton roi vient à toi plein de douceur. Pourquoi c'est écrit? Parce que Dieu que nous ne connaissons pas, nous pourrions avoir une certaine appréhension quant à sa venue. Alors il nous dit tellement qu'il est amour, qu'il est fidèle, qu'il est bon, qu'il est patient, que quand nous le verrons, il n'y aura pas de choc. Parce que s'il ne nous disait rien de lui, comment vivrions-nous ce moment où on va comparaître devant Dieu? Non. Il nous montrera sa gloire, tout le reste il nous l'a indiqué. C'est par la douceur et par la bonté de Christ, dira Paul, que les choses vont changer. Et un esprit doux et paisible est d'un grand prix devant Dieu. J'oserais même dire devant nous aussi. Et là aussi, c'est le fruit de l'esprit. Alors on termine. Deux hommes sont réputés dans tous ces domaines, justice, piété, foi, amour, patience et douceur, c'est Job et le père du fils prodigue. Alors prenons les exemples que Dieu nous donne, et c'est comme dans d'autres domaines. Heureusement que de temps en temps, on a eu de bons exemples devant les yeux, et on y est arrivé. Alors que le Seigneur nous aide.